venons de voir le noyau central de l'Évangile. Et nous serons toujours ramenés à cette question fondamentale qui est le paradoxe chrétien. Que Dieu rejoigne l'homme pour porter l'homme jusqu'à Dieu, c'est quelque chose de proprement inouï. Et j'écrivais dans le commentaire ceci, synthèse de l'expérience chrétienne, le passage que nous venons de lire et de relire livre les traits marquants de la théologie de Marc. Là, vous trouvez vraiment l'âme de Marc, son témoignage. Pour lui, la question de Jésus est au centre. Tout homme sur les chemins du monde se trouve interpellé un jour par celui qu'on appelle le Christ. Qu'un homme ose adresser un appel à tous ses congénères d'autrefois, d'aujourd'hui et de demain, c'est là une prétention exorbitante à l'universalité. C'est pourtant ce que Marc fait. Que l'Église se déclare porteuse de cet appel et responsable de ce message apparaît à beaucoup d'hommes de notre temps comme un abus de pouvoir. Il n'en allait pas autrement à l'époque de Marc. Il fallait donc, et il faut encore aujourd'hui, montrer que la bonne nouvelle n'était pas utopie ou idéologie aliénante. Pour cela, il est nécessaire de marquer le caractère unique de la personne de Jésus et du bouleversement opéré dans l'humanité par son apparition en Galilée à l'époque d'Hérode. Et de nouveau, nous retrouvons ce paradoxe que la divinité se donne dans une humanité particulière, mais à charge que nous le laissions vivre chacune et chacun dans notre humanité particulière. Pour que cette présence de Jésus en nous, de Dieu en nous, devienne séduisante pour le monde, par tous ceux que nous fréquentons. C'est ça, la prétention très humble de saint Marc. Prétention parce que c'est comme cela que c'est vu de l'extérieur, et pourtant très humble, parce que Marc dit les choses parce qu'il en vit. Alors une question m'est posée, deux. D'abord une, on constate l'incompréhension des apôtres. Dès lors, pourquoi ont-ils été envoyés si tôt en mission, deux par deux? C'est une question qui m'est souvent posée. Il y a des personnes qui disent, oui, on m'a demandé pour être catéchiste, mais je n'ai pas de formation. Mais je ne peux pas répondre. Je dis, ça dépend. Vous n'avez peut-être pas de formation catéchétique, et il serait peut-être bon d'en avoir une, et si dans la paroisse, il y a une formation continuée en même temps pour les catéchistes, c'est bon. Mais je dis, la formation du catéchiste, c'est de cheminer avec les enfants. Et de les écouter beaucoup. Et d'essayer non pas de répondre à leurs questions, mais de répondre à leur petite personne. C'est différent. Souvent, on répond à la question de façon plus ou moins exacte, mais répondre à la personne de l'enfant qui questionne, c'est marcher avec lui. Et c'est découvrir quelque chose qui le porte. Nous n'avons jamais fini. Moi, j'ai pas fini de découvrir l'évangile de Marc. Je découvre tout le temps nouveau. Alors, marchons comme les apôtres. Jésus les fait marcher, leur fait faire des stages, alors qu'ils n'ont pas encore reçu toute la formation. Ils n'auront jamais fini de la recevoir. Il faut aussi qu'ils puissent se rendre compte de leur incapacité et que leur incapacité est une espérance. Souvent, des personnes me disent « Mais j'ai jamais fait, donc je ne saurais pas le faire. » Alors, tu n'as jamais fait, donc tu peux le faire. Tu peux apprendre à le faire. Tu ne peux pas le dire d'avance. « J'ai jamais fait, donc je ne peux pas. » Mais non. Tu peux t'y mettre. Vous voyez ? Alors, moi j'aime beaucoup cette formation de Jésus sur le tas. Il forme ses apôtres vraiment sur le tas. Ils n'ont pas reçu leur diplôme et ils sont déjà envoyés. Il faut bien faire des stages. Voilà. Et c'est une confiance extraordinaire qu'il leur fait. Et c'est plutôt cela qu'il faut garder. Alors, vous voyez, pourquoi, je crois que j'ai déjà répondu un tout petit peu, pourquoi Jésus rabroue-t-il Pierre? Et pourquoi, quand les apôtres disent quelque chose de bien, là, de juste, là, homme de peu de foi, il les rembarre. Sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Les disciples, homme de peu de foi. Et les gens qui ne croient pas, c'est-à-dire les païens, ils s'extasient devant leur foi. Ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Mais c'est exactement comme cela qu'il faut encourager les personnes. Vous n'y êtes pas encore, vous savez. Allez, continuez. Donc, ce que vous avez dit n'est pas faux, mais continuez à faire l'expérience. Ce n'est pas la réponse qui est importante. Ça permettrait de vous mettre 10 sur 10, mais ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire une expérience d'une présence. Il s'agit d'une relation intime. Et là, on n'a jamais fini. Et si Jésus nous paraît sévère, s'il nous paraît exigeant, c'est parce qu'il l'est. Parce qu'il nous fait une confiance totale. Et il pense que nous pouvons toujours avancer. Et donc, nous ne sommes jamais au bout. Et les remontrances de Jésus sont toujours des grâces inestimables. Jésus ne condamne pas. Il nous dit, vous n'y êtes pas encore. C'est pas pareil. Continue. Va de l'avant. T'as pas fini. Nous contenterions trop vite d'une petite réponse. Mais Jésus est plus exigeant que cela et il a raison. Et nous pouvons aborder maintenant la quatrième étape de l'évangile. Et ça commence par un petit sommaire. Mais nous l'avons déjà vu. Parce que je vous ai pris le pivot central, le noyau, mais le noyau mort sur la troisième section et sur la quatrième. Elle fait l'enchaînement. Jésus commença à leur enseigner que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être exclu par les anciens et les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours se lever. C'est encore un sommaire. Mais ce n'est plus le même qu'autrefois. Ce que nous avons trouvé dans les 3 premières sections, c'était comme un résumé de ce qui s'était passé. Et maintenant, c'est un résumé prospectif. C'est le destin de Jésus qui est mis en avant. Donc, nous avons changé de cap. Jusqu'ici, on venait vers Jésus et on était formé par lui. Les apôtres, les disciples, la foule étaient formés, enseignés par lui et nous n'avons presque jamais découvert la parole de Jésus, sinon lui-même. Et même les adversaires de Jésus étaient mis au pied du mur pour être formés eux aussi s'ils le désiraient. Et maintenant, au lieu de venir vers Jésus, on suit Jésus. Il marche en avant. Et il marche en avant là où nous n'aimerions pas aller. Car il nous profile devant les yeux Jérusalem et le calvaire. Et il va par trois fois annoncer sa passion. Donc nous ramenons sans cesse à ce qui vient. Il ne faut pas vous forger une image du Messie triomphant, victorieux, mais d'un Messie qui prend la réalité humaine à la lettre jusqu'à la mort, mais qui en donne aussi la clé dans la résurrection. Mais se lever des morts, qu'est-ce que ça signifie? On n'en sait rien. Faudra d'abord qu'on fasse l'expérience. Et nous en sommes là. Et donc nous avons besoin d'être éclairés, et l'éclairage qui nous est donné, c'est l'intérieur, l'intimité de Jésus. Il dévoile quelque chose de son cœur. Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, écoutez-le. Si vous l'écoutez, si vous le suivez, vous deviendrez avec lui fils et fille bien-aimés. Donc il y a un chemin. Un chemin pour découvrir comment on devient, comment on est, comment on devient toujours de plus en plus, fils et fille de Dieu, du Père. Et c'est comme cela que nous avons eu cette vision de la transfiguration. Le voile s'est levé un tout petit peu sur l'intimité de Jésus. Jésus et le Père, ça ne fait qu'un. Et puis nous nous demandons, avec les disciples, mais comment peut-on savoir que ce Jésus est vraiment le Messie? Est-ce que Élie ne doit pas venir d'abord pour le désigner, qu'on s'assure? Ben, Élie est venu, là il va marquer, Élie est venu. Et donc, puisqu'il y est venu, vous pouvez découvrir vous aussi le Messie. Voyez, ce que Pierre a dit, nous avons à le découvrir aussi. Et c'est pourquoi Marc nous fait la confidence de ce que Pierre et les autres disciples ont vu sur la montagne. Et vous savez que Pierre, dans son épître, parle justement de Jésus transfiguré qu'on a vu sur la montagne. Et donc là, vous avez des recoupements qui sont significatifs et qui donnent consistance à cet évangile. On a dit, et je crois que c'est vrai, que l'évangile de Marc était au fond un peu le décalque de l'enseignement de Pierre. Et alors, un de mes anciens étudiants à Lumen Vitae, un jésuite, a fait l'expérience en reprenant tout l'évangile de Marc. Et chaque fois qu'il y avait Pierre, il mettait, il a publié d'ailleurs un petit livre en anglais, et chaque fois que Pierre entrait en jeu, il traduisait par « je », comme si c'était Pierre qui signait. Et ça marche, ça marche. Au lieu de dire « Pierre », on écrit « je » et on met à la première personne. Et il a essayé pour savoir si ça marcherait aussi chez Matthieu, chez Luc et chez Jean, et ça marche pas. Et là, c'est intéressant. C'est significatif, sans plus. Mais en fait, c'est intéressant. Ça confirme peut-être un peu que c'est vraiment la catéchèse de Pierre. Je reprends maintenant au chapitre 9, où nous sommes arrivés. Certes, Élie venant d'abord restituera tout. Et cependant, comment est-il écrit à propos du Fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et sera anéanti. Le mot est fort. Mais je vous dis, Élie est bienvenu et on lui a fait tout ce qu'on a voulu, selon qu'il est écrit à son sujet. Et si ça s'est passé comme ça pour Élie, ça se passera aussi pour celui qu'il annonçait. C'est ça qu'il veut nous dire. Et voyez comment le destin de Jésus est lié au destin de Jean-Baptiste. C'est ce qu'il nous avait dit dès le départ. Je continue au verset 14. Et venant auprès des disciples, ils virent une foule. Quand nous voyons venir la foule, disons-nous, hein, c'est tout un chacun. Une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant auprès d'eux. Hein, ce sont les scribes qui disent que Élie doit venir d'abord, les scribes ne l'ont pas reconnu, donc il faut les interroger. Et aussitôt, ah tiens, ça reprend, le chemin recommence. Hein, après s'être arrêté en compagnie de Jésus transfiguré, on se met en route. Et aussitôt, toute la foule l'ayant vu, fut saisie de stupeur. Et en accourant auprès de lui, on le saluait. Et il les interrogea. De quoi discutiez-vous auprès d'eux? Et un homme, hors de la foule, lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui a un esprit sans parole. » Il est muet, il n'est pas parlé celui-là. Et là, où il s'empare de lui, il le met en pièces, il écume, il grince des dents, et il devient raide. Un épileptique, hein? On l'a bien reconnu. Voilà le père d'un enfant épileptique. Nous avions sur la montagne le père du fils bien-aimé. Nous avons en bas de la montagne le père d'un enfant épileptique. C'est pas pour rien qu'on raconte les choses comme ça, hein. D'ailleurs, dans pas mal d'icônes byzantines, d'icônes grecques, vous avez hein, l'icône de la transfiguration, et puis en dessous, vous avez la guérison de l'enfant épileptique. Ce qui se passe au-dessus, le fils bien-aimé qu'il faut écouter, se passe en dessous. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. Et je l'ai dit à tes disciples qu'ils le chassent. Ils avaient reçu, hein, la capacité de chasser, la compétence, dirait-on aujourd'hui, de chasser les esprits impurs. Donc ça aurait dû marcher. Eh ben non, tiens. Et ils n'en ont pas eu la force. Tiens, qu'est-ce qui leur manque aux disciples? Celui-ci répondant leur dit, « Oh, génération sans foi !» Vous voyez, ils ont de la foi, juste assez pour qu'on leur dise qu'ils n'en ont pas. « Jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous tolérerai-je » Un peu dur, hein, c'est marrant. « Amenez-le auprès de moi !» Génération sans foi. Donc Jésus nous remet devant notre impuissance. Non pas pour nous y condamner, non pas pour nous y enfermer, mais pour nous montrer qu'il n'y a que lui qui peut travailler à travers nous. C'est pas nous. Et ils l'amenèrent auprès de lui. Et le voyant, l'esprit aussitôt le contracta convulsivement. Et voilà. Une crise épileptique. Et tombé sur la terre, il se roulait en écumant. Et il interrogea le Père. Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Comme un médecin, là, hein, qui fait l'anamnèse. Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Celui-ci lui dit, depuis l'enfance, et souvent aussi, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau, afin qu'il le perde. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, ému de compassion pour nous. Magnifique cette prière. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, ému de compassion sur nous. Jésus lui dit, si tu peux, il reprend seulement les mots de l'homme. Si tu peux. Mais tout est possible à celui qui a foi. Comme si Jésus lui renvoyait la balle. Il ne dit pas si je peux, non, si tu peux. L'homme lui dit, si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux. tout est possible à celui qui a foi. S'étant écrié aussitôt, le père du petit enfant disait, j'ai foi, viens au secours à ma non-foi. J'ai juste assez de foi pour voir que je n'en ai pas. Le chanoine Galuy avait coutume de souligner cette phrase-là. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi ? Savoir que je ne l'ai pas encore. J'ai foi, viens au secours à ma non-foi. À Pistias, ma sans-foi. Or Jésus, voyant qu'une foule accourt en masse, rabroua l'esprit impur. Lui aussi. En lui disant, esprit sans parole et sourd, moi je te l'ordonne, sors de lui et n'entre plus en lui. Et criant et le contractant beaucoup, il sortit. Et il devint tout comme mort. De sorte que la plupart disaient, il est mort. Or Jésus, saisissant sa main, le réveilla et il se leva. C'est extraordinaire, hein, cela. Vous avez sur la montagne une vision du ressuscité. Et vous avez en bas de la montagne une vision des hommes ressuscités, des épileptiques que nous sommes qui ressuscitent. Grâce à Jésus. Pas grâce à nous. Oui, mais les disciples, hein, ils ne sont pas contents, hein. Ils ne sont pas contents. Et comme il entrait à la maison, une fois qu'on est cela seul, on va une fois discuter, hein. Comme il entrait à la maison, ses disciples interrogeaient à l'écart. Pourquoi nous n'avons-nous pas pu le chasser, hein? Bon. Et il leur dit, cette race ne peut sortir par rien, sinon par la prière. Et probablement quelqu'un d'autre qui avait déjà lu Matthieu et le jeûne. La prière, c'est-à-dire, ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas un pouvoir que vous avez reçu. La foi n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une compétence, c'est une grâce. Pas pareil. Il faut recevoir de le chasser. Vous, vous pensez que ça va sortir de vous comme ça? Pas du tout. Ça va sortir de moi à travers vous, mais il faut être transparent, c'est tout. Cette race ne peut sortir par rien, sinon par la prière et le jeûne. Et étant sorti de là, il passait par la Galilée, et il ne voulait pas que quelqu'un sache, le sache, sache qu'il était là. Car il enseignait ses disciples, et il leur disait, ah maintenant nous avons un petit enseignement, un mini enseignement, en un verset. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et tué après 3 jours, il se lèvera. La foi, c'est ça, c'est croire en la vie, celle que Jésus donne. Ils viennent de voir comment ça se faisait. Ceux-ci ne réalisaient pas le fait. Ils ne comprennent pas, hein, comme nous. Et il craignait de l'interroger. Parce que quand on l'interroge, hein, il nous mène toujours plus loin et il ne nous mène pas. Hein. On aime mieux garder sa sécurité. Et il vint à Capharnaüm. Et arrivé dans la maison, voilà, on retrouve l'intimité. On était sur la route jusqu'ici. Sur la route vers Césarée de Philippe. Et puis on arrive à Capharnaüm. On rentre. Et arrivé dans la maison, il les interrogeait. Vous remarquez qu'on interroge beaucoup, hein, maintenant. Hein? Ils interrogent, mais ils n'osent plus l'interroger. Lui interroge alors, hein. À quoi réfléchissiez-vous en chemin? On est à la maison, en chemin. Vous réfléchissiez à quoi? Ceux-ci se taisaient. car en chemin, ils s'étaient disputés littéralement, ils avaient dialogué les uns avec les autres pour savoir qui est le plus grand. Voilà, ça y est. Nous dirions aujourd'hui qui a raison. Et on se bagarre. Parce que chacun veut avoir raison. Ça serait pas trop mauvais si chacun voulait avoir raison avec les autres. Le malheur, c'est qu'on veut avoir raison tout seul, contre les autres. En chemin, ils s'étaient bagarrés, les uns avec les autres, pour savoir qui est le plus grand. Le pouvoir, ça attire. Hein. Ôte-toi de là que je m'y mette. Et s'étant assis, enseignement, quand on s'assied, c'est pour l'enseignement, il convoqua les 12 et leur dit, parole de sagesse, si quelqu'un veut être premier, il sera dernier de tous et servant de tous. Le premier, c'est le servant de tous. C'est tout. L'enseignement est terminé. Ça nous met en liberté, une phrase comme celle-là. Hein? Nous n'arriverons jamais à être servants de tous. Donc allons-y. Commençons. D'autres diraient, on n'arrivera jamais, donc on laisse tomber les bras. On est découragé. Mais non. Allons-y. Si quelqu'un veut être premier, il sera dernier de tous et servant de tous. C'est clair, hein? Et prenant un petit enfant, il le fit se tenir au milieu d'eux. Et le serrant dans ses bras, il leur dit, « Qui accueillera un unique de pareils petits enfants ? En mon nom, il m'accueille. Et qui m'accueillera ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » De nouveau, une parole de sagesse. Qui ? Celui qui ? À vous de choisir. C'est ça qui met en liberté. Qui accueillera un unique de pareils petits enfants ? Pour comprendre cette phrase, il faut bien se rendre compte que les petits enfants étaient traités comme quantité négligeable. Il y en avait tellement, hein, ça courait partout, et on savait bien que beaucoup mourraient en bas âge. Ils n'étaient pas cajolés ou choyés comme ils le sont maintenant, parce qu'il y en a peu. Là, il y en avait trop, dans quelque sorte. Et donc, c'est de la marmaille, quoi. Jésus dit, attention, ceux que vous rejetez, ceux qui sont à l'extérieur, le petit enfant, hein, c'est aussi le pauvre, c'est aussi l'étranger, c'est aussi celui qu'on n'accueille pas, qui accueillera un unique de pareils petits enfants, en mon nom m'accueille. En mon nom, c'est-à-dire parce que ma présence est en lui. M'accueille. Vous m'accueillez vraiment dans un petit. Et qui m'accueillera ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Vous entrez dans l'intimité du Père. C'est un chemin de résurrection qu'il nous donne, hein, ici. Il s'en va vers la résurrection, nous avons bien compris. Jean lui déclara, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons par ton nom précisément, hein? Et nous l'empêchons, parce qu'il ne nous suivait pas. Quelqu'un qui fait du bien, là, il chasse des démons, là, tout autour. Mais il vient pas avec nous, hein? Jésus dit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui fera un geste de puissance en mon nom, si c'est par mon nom, il n'y a pas de problème, et pourra immédiatement dire du mal de moi. Ça ne va pas, ça. Le bien, il n'est pas seulement dans votre petit clan, hein. Le bien, il est partout. Donc laissez-le faire. Là où il y a du bien, eh bien, accueillez-le, ce bien. Il n'est personne qui fera un geste de puissance en mon nom et pourra immédiatement dire du mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. Dans l'Évangile, vous trouverez chez Luc une autre phrase, mais qui semble dire le contraire, mais qui ne dit pas le contraire. C'est qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'est pas avec, mais on peut être avec de loin, comme ici. Mais ici, qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est tout différent. Mais ouvrez votre petite église, sapristi. Laissez venir. Qui n'est pas avec nous, qui n'est pas contre nous, pardon, est pour nous. Car, qui vous donnera à boire une coupe d'eau au nom que vous êtes du Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas son salaire ou sa récompense. Mais c'est un mot qu'on comprend très mal, la récompense. Parce que nous vivons dans une civilisation de commerce. J'ai bien travaillé, qu'est-ce que j'aurai comme récompense? L'ordinateur que je convoite? Mais non, tu as bien travaillé, tu as ta récompense. Hein? C'est d'avoir bien travaillé et d'être reconnu comme avoir bien travaillé. T'as besoin de rien d'autre? Sinon c'est du marchandage. Ne perdra pas son salaire. C'est la gratuité qu'il nous enseigne. Et nous remplaçons souvent la gratuité par le marchandage. On a bien travaillé pour avoir le vélo. C'est peut-être pas mauvais, mais enfin, c'est pas ça. C'est pas la réalité. Et puis, il continue, hein. Et qui scandalisera un unique de ces petits qui ont foi, il est beau pour lui que plutôt une meule d'âne lui soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer. Ça, pourtant, il n'y aura pas de main morte, hein. Scandaliser, c'est mettre un caillou dans le soulier, hein. C'est-à-dire un empêchement. C'est obstruer la voie. Qui scandalisera un de ces petits qui ont foi en moi? De ces petits qui ont déjà une relation avec moi. Et ils l'ont, je dirais, par la raison qu'ils existent comme des petits. Puisque un petit est une présence de Jésus et donc une présence du Père. Je viens de le dire. Eh bien, si vous scandalisez, si vous l'empêchez de croire, si vous l'attirez vers le mal, il serait beau pour lui qu'on lui attache une meule de moulin autour du cou et qu'on le jette dans la mer. Ça ne veut pas dire que Jésus dit qu'il faut faire cela. Ça veut dire que c'est terrible de scandaliser. Il nous dit la grandeur d'une faute. C'est comme dans la Bible d'ailleurs. Quand on vous dit celui qui fait ceci ou cela, qu'il soit puni de mort ou qu'il soit lapidé, hein, tout, à l'époque de Jésus en tout cas, tout avait été transformé en paiement, hein, en indemnité. Mais ça dit la grandeur de la faute. Celui qui fait mourir quelqu'un, il mérite de mourir. C'est-à-dire, il introduit un venin dans la communauté. Ici, c'est pareil. Scandaliser un petit, il vaut mieux mourir. Et mourir comme ça, périr noyé dans la mer, que scandaliser un petit. C'est tellement grave. À une époque de pédophilie, ça doit nous dire quelque chose. Et puis, Jésus, évidemment, continue. Il développe avec tout le matériel symbolique dont il dispose. Et si ta main te scandalise, qu'est-ce qu'il faut faire? Coupe-la! Il est beau pour toi d'entrer manchot dans la vie, plutôt que, ayant les deux mains, de t'éloigner dans la géhenne, vers le feu inextinguible, là où leur ver rongeur ne finit pas, où le feu ne s'éteint pas. Bon, L'AGN, c'est le dépotoir de Jérusalem. Hein? On jette les détritus et ça brûle. On les fait brûler, jour et nuit. Donc c'est une image, l'AGN. Donc il vaut mieux qu'on le jette à la poubelle. Il vaut mieux d'entrer manchot dans la vie que d'être jeté à la poubelle. Et si ton pied te scandalise, coupe-le. Il est beau pour toi d'entrer dans la vie estropié, ou plutôt que ayant tes deux pieds, d'être jeté dans la géhenne, là où leur vers 11h ne finit pas, où le feu ne s'éteint pas. Hein, vous avez les vers hein, qui font mis tout autour de la géhenne, hein, et le feu qui ne s'éteint pas. Et ça sent mauvais en plus. Et on grince les dents quand on passe, hein, parce que ça sent mauvais. Et si ton œil te scandalise, chasse-le. Il est beau pour toi d'entrer borgne dans le royaume de Dieu, plutôt que, ayant deux yeux, d'être jeté dans la géhenne, là où leur ver rongeur ne finit pas, où le feu ne s'éteint pas. Et il continue encore. Car tout homme sera salé par le feu. Bizarre, hein? Il est beau le sel. Mais si le sel devient dessalé, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez en vous-même du sel, et soyez en paix les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, hein? Bizarre, hein? Ah, sans symbolique, pas moyen de s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que la main? La main, c'est ce qu'on a. La main, c'est deux choses. Ou bien c'est ça, ou bien c'est ça. Ou bien c'est ce qu'on prend, ou ce qu'on donne. Mais la main symbolise l'avoir. Prendre quelque chose. Avoir. Donc s'il y a un avoir, une possession, quelque chose qui t'attire plus que Jésus lui-même, eh bien, laisse cet avoir, il vaut rien. Il vaut mieux que tu entres pauvre, sans avoir. Mais que tu entres, où ça, il faut entrer? Dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Voilà qu'il parle de vie. La vie, c'est l'intimité de Jésus avec son Père, hein? Avec un grand V. Donc, la main symbolise l'avoir. Et ton pied? On met son pied sur quelque chose qu'on veut posséder. C'est un pouvoir. Ou bien on peut aller vers l'autre, on peut se servir de ses pieds pour aller vers l'autre, c'est un service. Ou bien on met le pied dessus, ça poigne, ça marque dessus, et on a le pouvoir. Et si un pouvoir t'empêche d'entrer dans la vie, te scandalise, fait obstacle à ta relation avec moi et avec le Père, eh bien lâche ce pouvoir. Vaut mieux entrer sans ce pouvoir dans la vie. Et l'œil, c'est le désir. J'envie, je désire quelque chose. Eh bien, s'il y a un désir qui te scandalise, c'est-à-dire qui t'empêche d'être en relation profonde avec Jésus, enlève ce désir, jette-le. Il vaut mieux entrer, ah tiens, il ne dit plus dans la vie, il donne un synonyme, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, maintenant il nous traduit ce qu'est la vie. La vie, c'est l'intimité avec le Père. Eh bien, c'est ça, le royaume de Dieu. Entrer dans cette intimité, dans cette grande famille de Dieu. Eh bien, il vaut mieux cela, d'entrer borgne. C'est-à-dire, sans avoir satisfait ton désir. Plutôt que d'être jeté dans la géhenne, c'est-à-dire à la poubelle. C'est-à-dire de ne servir à rien. Sinon, ta vie ne sert à rien. Alors, ne sois pas esclave de ton avoir, ni de ton pouvoir, ni de ton désir. Pour cela, il y a une décision à prendre. tout homme sera salé par le feu. Le sel, c'est vrai, c'est comme un feu. Il y a le sel de la terre, mais il y a le sel de la mer. Le sel de la terre est plus dense. On connaît la mer morte, et on sait que la mer morte est sur un bloc de sel. C'est pas de la terre, c'est du sel. Le sel, c'est quelque chose qui brûle. Et on jetait du sel, là où nous jetons, sur le fumier par exemple, ils jetaient du sel. Mais si le sel devient dessalé, c'est beau, hein? Ça donne du goût et ça conserve, le sel. Ça donne du goût à la vie et ça conserve la vie, conserve les aliments. Mais si le sel s'affadit, devient dessalé, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Vous n'avez plus rien d'autre. Ayez en vous-même du sel. Ici, ce sel, c'est vraiment de la sagesse, de l'intelligence. Essayez de comprendre un peu ce qui a de l'importance. Dirions aussi, mais prenez une décision juste. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Ayez en vous-même du sel et soyez en paix les uns avec les autres. Mettez un petit peu de plomb dans votre cervelle, dirions-nous aujourd'hui. Quoi, il faut aller chercher du plomb et le couler dans ma cervelle, mais non, on n'a pas dit ça. Il ne faut pas prendre non plus le texte à la lettre, pas plus que vous ne le prendriez si on vous disait mettez du plomb dans votre cervelle. C'est la même chose. Essayez un peu de goûter ce qui est la véritable sagesse. La véritable sagesse est respect de l'autre. La véritable sagesse est découverte du plus petit, découverte de la présence divine dans le plus petit. On s'arrête, pardon.